Votre grand journal de soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et c'est l'heure des grandes voix. On va saluer les grandes voix qui sont autour de la table. D'abord, embrasser ceux qui sont en vacances déjà, Robert Namias et Gérard Carrérou. Ce soir, je suis avec Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Mathieu.
Avec Michel Cotta.
Bonsoir, bonsoir Michel. Mathieu.
Et avec Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Salut.
Ça va? Ça, c'est un bonsoir de bonhomme, ça. Ça. Et je veux vous dire qu'il vous regarde dans les yeux en même temps en vous disant salut. Faites pas le malin, Benjamin Miller. Vous êtes juste à côté de lui.
Quand Gérard est là, jamais. Bonsoir à tous, bonsoir les grandes voix.
Non, mais on a le même club tous les deux.
C'est vrai.
Oui, ça, il y a un dénominateur commun. On peut dire ça comme ça. Benjamin Muller, on est vendredi, donc on fait le bilan de cette année du Grand Journal du Soir. J'ai peur de la question.
Eh oui.
Alors, c'était comment?
Oh, c'était génial, toujours. Mais oui, c'est déjà l'heure de faire le bilan parce que c'est vrai, ce soir, à titre personnel, je pars en vacances. Ce qui veut dire que c'est ma dernière chronique avec vous et avec Omblin. Alors déjà, il faut souligner que c'est une réussite cette année, votre émission, au niveau de l'audience, bien sûr, surtout au niveau de la qualité. On va être franc, je le dis d'autant plus qu'en début de saison, quand vous avez pitché l'émission, comme on dit, on était quelques-uns à être un peu dubitatifs.
Bienvenue sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir, c'est le journal, enfin pas le journal, pas n'importe quel journal, pas le journal comme ça, c'est le seul journal que vous êtes invité à composer, c'est-à-dire que c'est un journal qu'on vous vendrait et dans lequel il y aurait des pages blanches.
Arnaque. Alors dit comme ça, ça sentait un peu l'arnaque en septembre, mais en fait pas du tout. Surtout que, disons-le, vous avez su vous entourer des meilleurs que vous avez chéris toute l'année, moi le premier.
Bonsoir Mathieu.
Ça va Marguerite?
Très bien.
Benjamin Muller est malade, hein. On est obligé de chambrer un peu.
Un peu comme vous?
Oui, mais bon, il y en a qui tiennent, quoi. Je veux dire, il y en a qui viennent quand même.
Quand je pense que j'étais entre la vie et la mort, j'avais une petite angine, un petit mal de gorge. C'était très douloureux.
Puis une autre question sur laquelle je vous attends ce soir.
Ah, oui, laquelle?
Le démarrage des soldes. Ça n'a pas commencé quand je vous regarde. Hein.
Ben on travaillait.
Voilà. C'est pas sympa ce Mathieu.
Pas du tout, là vous passez vraiment pour qui aime bien châtie bien. C'est ce qu'on dit, surtout que sur le sujet des fringues, vous avez à côté de vous au quotidien Omblin, qui est un peu la nouvelle Inès de la Fressange, la dénicheuse de nouveaux styles.
Pas de gilet jaune, plutôt des collants en lycra et des shorts déchirés.
Tout à fait Omblin, tendance 2018-2019. Omblin qui, on peut le dire sans se tromper, a une grande qualité parmi les autres, c'est la précision. C'est important, la précision.
Nous sommes mercredi, il est 17h. En fait, nous sommes mardi.
mardi, mercredi, il n'y a qu'une journée, ça passe. Allez, quand je disais qu'Omblin était précise, c'est vrai, hein, la preuve.
Le Royal Baby en Angleterre, le fils de Meghan et Harry est un garçon.
Eh oui, son fils est un garçon. Ça, c'est du scoop Europe 1. Allez, arrêtons de rire maintenant, Mathieu. Respect à vous et à Charles d'ailleurs aussi. Que, Mathieu, vous avez eu à couvrir une actu pas marrante cette année. Enfin, pas marrante pour vous, quoi.
Non mais c'est la honte, cette élimination du Paris Saint-Germain et nous allons débattre ce soir.
Eh oui, pas simple d'être fan du PSG cette année, mais vous avez eu une bonne idée, faire de l'antenne une sorte de cellule psychologique pour les supporters.
Vous intervenez au 39-21 et sachez que vous n'êtes pas seul.
Voilà, vous vous êtes fait du bien, c'est important. Alors j'arrête, on arrête de parler du PSG, je vais pas piquer du temps d'antenne aux grandes voix, c'est dommage, on n'a pas le temps de dire un mot de votre autre grande passion après le foot.
J'aimerais savoir dans quel contexte vous utilisez le barbecue. Ça, c'est une question perso.
Oui, c'est cette passion-là dont je parle, effectivement.
J'ai accès au barbecue de la maison?
Oui, oui, le barbecue, on a compris, Mathieu.
C'est une obsession.
D'ailleurs, c'est devant un bon barbecue cet été, Mathieu, que je vous dirai à quel point ça a été un plaisir de travailler avec vous et à quel point je vous souhaite le meilleur au matin. Là, on n'a plus le temps, malheureusement, sinon je vous l'aurais dit. Omblin, Mathieu, il va présenter la matinale sur quelle radio en septembre?
Sur Europe 1. Sur Europe 1.
Oui, c'est exactement ça, Omblin. Merci Europe beaucoup. Bon été à tous.
Merci Benjamin Muller. Je vous ai rencontré à l'occasion de la préparation de ce grand journal du soir et c'était un très grand plaisir de travailler avec toi pendant cette année.
Plaisir partagé.
Tu nous as offert un peu de sourire et on en a besoin parce qu'on traite l'actualité. On prend cette matière qui est l'actualité, c'est parfois sympa mais pas toujours et on a besoin de sourire. Il faut jamais oublier qu'il faut se marrer, il faut rigoler dans le travail aussi. Je suis sûr que c'est comme ça pour vous aussi, vous qui nous écoutez. Très belles vacances Benjamin.
À bientôt.
En famille.
Merci.
Évidemment. 19h27 sur Europe 1. Vous restez avec nous à suivre le débat des grandes voix jusqu'à 20h avec Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve. À tout de suite.
Vous écoutez Mathieu Béliard et sur Europe 1 le vendredi soir. Évidemment, les grandes voix, Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve.
Beaucoup d'actualités cette semaine, mes chères grandes voix, et on va commencer par parler de l'Union Européenne, avec notamment, ce sont deux postes clés, et c'est pour ça qu'il faut souligner ces deux postes clés, notamment les nominations d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission Européenne et de Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne. Un geste fort de femme à la très belle carrière, il faut quand même le souligner, parce qu'on dit beaucoup de femmes à des postes clés, de femmes à la très belle carrière. quel message est-ce qu'on envoie après quelques tractations difficiles, hein, pour aboutir à ces nominations?
Oui, parce
Michel
que c'est pas uniquement les deux femmes. C'est vrai que c'est important qu'il y ait deux femmes. Et d'ailleurs, le président de la République avait dit d'emblée qu'il voulait que ce soit paritaire et qu'il y ait deux femmes et deux hommes. Mais il y a plein d'autres indices qui sont intéressants dans ce qui s'est passé. La première, c'est on avait dit que la France et l'Allemagne, le couple franco-allemand n'existait plus, puisque la chancelière poussait quelqu'un et dont ne voulait absolument pas le président Macron. Et en fait, les négociations ont bel et bien marché, puisque d'un côté, elle a nommé, la chancelière a nommé quelqu'un qui était proche d'elle, et de l'autre côté, le président a nommé quelqu'un qui connaît les rouages des affaires. Bon, ça c'est sûr. Puis, il y a aussi l'équilibre, qui est pas mal, parce qu'il y a un socialiste italien à l'Assemblée, un espagnol, les deux, tout ça étant francophone. C'est déjà pas mal, voilà. Donc finalement, de cette négociation, je ne vais pas trop parler, mais de cette négociation, il est sorti finalement ce qu'il y avait de mieux.
C'est ça l'Europe aussi, on attend,
j'ajoute,
il faut
avec le les pays de l'Est quand même tout à fait éloignés, ce qui laisse peut-être penser dans le futur à des problèmes avec les pays de l'Est.
À des évolutions aussi, peut-être. Il faut le rappeler, je sais qu'à chaque fois on le souligne avec Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles, le sens européen, c'est très différent de la politique française, c'est le sens du compromis. Là, on en est dans cette illustration d'un compromis trouvé dans le couple franco-allemand, pas seulement, évidemment, Catherine Ney.
Oui, mais surtout, ça... il y a toujours des crises en Europe et on s'imagine que c'est immobile et que ça n'avance pas. Or, moi, je crois que là, il y a eu vraiment un jeu de rôle et de compromis qui a été très subtil, parce qu'au fond, Angela Merkel soutenait Manfred Weber, qui était le président du groupe parlementaire au PPE. C'était donc sa famille politique, mais elle savait très bien qu'il n'en avait pas l'envergure. Elle le soutenait pour des raisons aussi de politique interne à ce qui était sa coalition de base, CDU, CSU. C'était un Bavarois de la Bavière profonde. Et elle savait très bien. Et là, Macron lui avait dit non, c'est pas possible, parce que oui, c'est pas, il est pas apte à prendre le poste.
Mais il avait envoyé déjà, bien sûr, on a considéré que c'était un pas de clair de Nathalie Loiseau, mais il avait déjà averti.
Mais c'était une gaffe calculée. Voilà.
Angela Merkel, quand Nathalie Loiseau dit Macron ne veut pas de Weber, qui n'a jamais été ministre, qui ne parle pas un mot de français, qui n'a jamais rien réussi. Ça, c'était dit
Commandé.
Au Parlement. Elle était en service commandé. Voilà.
Donc, pendant un premier temps, Mme Merkel l'a assez mal pris. Et la mesure de rétorsion, c'était que ça ne serait jamais Barnier. Puisque Macron ne voulait pas de Berger, eh bien, elle ne voudrait pas de Barnier. Et puis, Martin Schulz, qui est un socialiste à qui il est arrivé des malheurs à la tête du SPD, lui a suggéré pour que la... puisqu'elle est en coalition avec le SPD, de présenter Timmermans, ce qui était... Et blocage de Macron, qui lui a dit, écoute, j'ai une meilleure idée.
Oui, non, mais surtout qu'il lui a dit, je ne veux pas d'un europhobe, en réalité, et je ne veux pas d'un anti-français. Je ne veux pas d'un batave anti-français. Il a été assez brutal, parce que Macron, et il faut reconnaître qu'il a joué les premiers rôles dans cette affaire, avec évidemment l'accord de Mme Merkel, il ne voulait pas laisser croire que le duo franco-allemand n'était plus capable de se faire entendre. C'est ça qui s'est passé. Et c'est à partir d'Osaka, si tu veux, que plutôt que d'aller vers un fiasco, comme le disait très bien d'ailleurs Catherine Ney, c'est-à-dire on pense toujours que ça merde l'Europe, que c'est toujours des pratiques en coulisses et tout ça, c'est à partir de là qu'il a proposé la ministre de la Défense, fidèle, Catherine connaît très bien.
Fidèle, Madame van der Leyen, qui est ministre de Merkel depuis 14 ans. Elle a toujours été ministre.
Bon. Et qu'elle aime beaucoup.
Elle l'aime beaucoup. Elle l'aime beaucoup.
Qui parle français. Qui
parle français, mais qui lui a donné un poste très difficile. C'est la défense, parce qu'on sait très bien qu'il y a une opposition féroce en Allemagne pour la défense. Et d'ailleurs, l'armée allemande est très défectueuse. Elle est très mal équipée. Le budget est nul. Donc, et elle était la première, puisqu'il n'y a pas de recrues. Les hommes à faire de la féminisation. Et puis surtout, elle parle de défense européenne. Donc, elle marche avec les Français aussi, elle voudrait Donc de ce point de vue-là, c'est la meilleure qu'on puisse choisir, peut-être même à la Commission, pour l'intérêt des Français.
Oui, elle a un complice au sein du gouvernement français, c'est Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense quand elle était ministre de la Défense, et tous les deux ont gardé beaucoup de relations, relativement serrées même, et Le Drian, qui est ministre des Affaires européennes aussi, il n'est pas seulement ministre des Affaires étrangères, évidemment, c'est un atout. C'est un atout quand vous avez une interlocutrice qui est plutôt considérée comme une francophile.
Oui, Michel Cotard. Ils sont tous francophones, ce qui est quand même formidable. Oui. Et puis ce qui reste le plus important, parce que c'est quand même là-dessus que les critiques ont porté depuis 15 jours, c'est voilà, il n'y a plus de couple franco-allemand, ils ne s'entendent plus, ils détestent, ça ne marche plus du tout. Bon, ben là, la démonstration est faite du contraire, parce qu'au fond... effectivement, c'est l'art du compromis. Mais tout gouvernement, c'est l'art du compromis. Même en France, les compromis existent. Mais là, c'est vrai. Mais moi aussi, ce que je vois très important, je le souligne encore, c'est que les pays de l'Est qui faisaient un grand chantage, donc on leur a dit, vous ne voulez pas de Manfred Weber, vous ne l'avez pas. Et puis après, on a nommé des gens sans eux. Et donc, ça prouve quand même qu'il y a une Europe de l'Est qui reste marginale, et on s'en aperçoit. Alors, comment ça va évoluer ?
Non, mais elle reste
comment
marginale,
ça va évoluer,
parce que...
On n'en sait rien. Voilà.
Pour nommer à des postes aussi importants, il fallait quand même nommer des gens qui ont de la bouteille et qui sont... qui ont fait leur preuve professionnelle.
Et qui ne représentent pas quand même le contraire de ce que pense la majorité des pays de l'Ouest.
Non, mais les grands perdants quand même dans cette affaire, il y a d'abord les Italiens, les populistes italiens, et il y a surtout un... relatif critère d'équilibre, de parité politique, c'est-à-dire vous avez la droite, la gauche, les libéraux, avec Claude Michel, le ministre belge, francophone.
Charles Michel,
qui était Premier ministre, mais qui a été, normalement, qui va quitter son poste, etc.
Qui est un grand défenseur de Macron.
Et être Premier ministre de la Belgique, dans l'État où la Belgique,
c'est une performance.
C'est toujours une belle ligne que vous avez.
C'est, vous savez, l'équilibriste de Folon. Vous voyez ? C'est la même chose.
19h37.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, le débat qui continue avec les grandes voix. Ce soir, Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve. À tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Mathieu Béliard et le vendredi soir avec les grandes voix d'Europe 1, Catherine et Michel Cotta et Charles Villeneuve.
L'autre grand sujet d'actualité à la une ce soir, ce sont les résultats du baccalauréat, une édition 2019, nous le disions avec Virginie Salmen un peu plus tôt dans ce journal, une édition rocambolesque, incroyable, entre les menaces de grève, les copies qu'on ne rend pas, les erreurs, les triches, etc. Un baccalauréat un peu compliqué à tel point que Jean-Michel Blanquer, on est le 5 juillet, il est évidemment encore sur le pont. Je lisais l'édito du Figaro ce matin, consternant, c'est le mot qui était utilisé. Vous êtes d'accord ?
Ah oui, moi je suis d'accord. C'est consternant pour tout le monde d'ailleurs. Mmh. Même, je dirais, pour le ministre de l'Éducation nationale. C'est pas le principal coupable, mais je trouve que quand on est ministre de l'Éducation nationale, il faut toujours conserver un moment de dialogue. Si tu veux, aujourd'hui il y a une prise d'otage des élèves, c'est quand même incroyable.
Mais par une minorité, ils sont très très minoritaires, la plupart des professeurs ils ont accepté, il y en a même qui disent qu'ils trouvent que dans sa réforme il y a des choses qui sont très bien, il y a toujours une minorité. Moi je trouve que c'est l'effet gilet jaune. Ça met dans des gens qui sont radicaux, ils ont dit on va aller jusqu'au bout, on va vraiment. On joue contre les élèves, on les prend en otage. Enfin, c'est quand même pas le respect des élèves. C'est une insubordination.
Quoi ?
On est d'accord.
Et
qu'est-ce qu'ils vont obtenir ? Je veux dire. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'ils refusent, c'est le contrôle continu. Or là, justement, on va mettre en application pour ces élèves qu'ils n'auront pas corrigé un début de...
C'est magique.
C'est extraordinaire.
Il faut s'arrêter, il faut juste l'expliquer en deux secondes.
C'est une bonne chose.
Comme on n'a pas toutes les copies, on va considérer... Jean-Michel Blanquer a décidé, pour le coup, ce sera un acte fort aussi, de se servir des notes de l'année, puis ensuite de choisir la meilleure note. Parce que les élèves, il faut se mettre à la place de gamins de 17-18 ans, qui sont dans une situation de stress insupportable.
Bien sûr.
Pour les familles. ça, c'est
je ne vois pas quelle considération ils peuvent avoir pour leurs professeurs à partir du moment où vraiment on leur dit on joue sur cette carte-là. Quand on sait la trouille des élèves, quand on sait leur stress, c'est vraiment ça, vraiment. Mais enfin, bon.
Trouille que nous avons éprouvée.
Oui, mais c'est,
ça passe après longtemps,
et c'est toutes les familles qui sont impactées en ce moment, je veux dire.
Mais ce qui est important quand même, c'est aussi, c'est presque paradoxal, parce que la réforme du bac telle que vous voulez la présenter, telle que la présente Blanquer, c'est donc moins de matière à l'écrit du bac, hein, moins de matière. Il y en a une quinzaine maintenant, et lui, il va en proposer 3 ou 4. Et puis le contrôle
c'est les
continue.
Options, ça. C'est
et
les
puis
options.
Le contrôle continue. Et bien finalement, il aura prouvé un peu à son corps défendant des jusqu'au-boutistes que le contrôle continue, ben, ça marche, puisqu'il y a des élèves qui seront bacheliers avec le contrôle continu. C'est drôle, parce que c'est un paradoxe.
Et ça se pose aussi dans ce débat, si vous le voulez bien, la question des sanctions. Ces profs qui ont refusé de rendre les copies de certains élèves. Encore une fois, on est sur une extrême minorité, à la fois des copies et des profs. Il faut les sanctionner. Il faut être dur, comme certains l'ont réclamé.
Mais comme le ministre réclame qu'il ne soit pas payé pour 10 ou 15 jours. Quoi. C'est quand même...
Sauf si ça sert de négociation. Sauf si ça peut servir de
Moi, je pense qu'il faut brandir la menace, quitte à les faire rentrer dans le rang. Mais je veux dire, il faut quand même que ça soit au moins qu'il y ait une...
Ce qui est fou, c'est que la situation en soit arrivée là. Quoi. La radicalisation de cette frange est quand même tout à fait étonnante. Et c'est simplement parce que les professeurs ne veulent pas de la réforme du bac, parce qu'ils ont peur que les matières qui ne soient pas au bac ne soient plus considérées. Donc tous ces professeurs-là ont peur d'être déconsidérés par la réforme. Alors que le contrôle continu, en gros, c'est plutôt le contraire. Ça donne la première place aux professeurs pendant toute une année.
Comme nous étions tous des très bons élèves, je me demande si les mentions vont être attribuées dans cette affaire, c'est-à-dire si on va donner les mentions bien, assez bien, très bien,
celui
etc.
Qui avait, il y en a eu qui a, vous avez interrogé tout à l'heure, quelqu'un qui a eu 20
j'ai
philosophie,
c'est très, très,
en ayant
très,
révisé
très
pendant 5 jours d'ailleurs, Bastien. En ayant révisé
alors,
5
je,
jours.
Oui, je n'avais pas le détail du mauvais du cancre, hein, parce que moi je savais qu'il avait eu 20 sur 20 en philosophie, puis je découvre petit à petit que le gamin nous dit tout à l'heure à l'antenne, moi j'ai rien fait de l'année, j'ai eu 1 sur 20 toute l'année. Par contre, il a révisé dans la dernière ligne droite grâce à YouTube, grâce à ses chaînes YouTube qui se montent avec des jeunes profs.
Et il a eu de la veine, il est tombé sur un sujet approximatif
20 sur 20.
Sur YouTube.
20 sur 20 à l'épreuve du bac de philo.
Ouais, tu as déjà mentionné.
Oui, mais ça, c'est l'histoire du gars qui gagne à la loterie.
Il y a un peu de ça. Bon, moi, j'avais pas de très bonnes notes. J'ai eu une très belle note au bac en philo, mais bon, après, c'est la magie aussi de la philo. Quoi. Il y a toujours cette
c'est pour ça que tu es là.
Bien sûr, bien sûr.
Vous faites de la philosophie.
Vous gardez un bon souvenir, vous, du baccalauréat, mes chers Grandevoix ?
Bah, bien sûr.
Moi, j'aime bien les concours.
On en avait deux. On avait la première partie, la deuxième partie.
Oui, moi, j'ai passé 2 bacs aussi.
Oui.
C'est vrai ?
Oui.
Ben oui.
Là,
ben
tu
oui,
dis, c'est sûr. Le deuxième ben avis. Oui.
On est d'une génération que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Deux sessions.
Oui,
absolument.
En première,
tu passais le premier bac et en terminale, tu passais ton deuxième bac.
Et du coup, alors, tiens, avec cette position-là, j'en profite, puisqu'on a un tout petit peu le temps, le regard que vous portez sur le contrôle continu, sur l'évolution du baccalauréat.
Tout à fait pour moi.
Tout à fait pour. Parce que là, il faut le rappeler, on est sur l'avant-dernier baccalauréat tel qu'il existe.
Je trouve 2021,
incroyable. Je trouve que le baccalauréat, d'abord, on s'aperçoit maintenant qu'on ne peut plus l'organiser pour 4 millions de gens. Quoi. Quand on l'organisait pour 500 000 personnes, ça allait, mais 4 millions, évidemment, il y a des fuites, évidemment, ça part dans tous les sens. Bon, on voit bien que ce bac-là,
ça coûte très cher à l'État.
Il est obsolète. Bon. Oui. Et tandis que moi, je trouve toujours pensé que le contrôle continu, ça obligeait quelqu'un justement à travailler
toute l'année.
Pas fait avec 20 sur 20, travailler un peu toute l'année. Moi, je trouve ça pas mal.
Moi, je nuancerais personnellement. Enfin, c'est ma position personnelle.
Et tu la partages.
Moi, je suis pour le concours. Je suis pour l'examen. Je suis pour le maintien de l'examen, même si je suis pour le contrôle continu.
Pour le rite de passage.
Oui. Mais c'est ce qui est prévu.
C'est ça.
Prévu la moitié de contrôle continu, la moitié d'examen.
Il faut, parce que la vie, de toute façon, très souvent, est semée d'embûches, d'obstacles, qui fait que, de toute façon, à un moment donné, il faut s'arracher pour passer ces obstacles.
Oui, mais là, dans la réforme qui est prévue, justement, il y a, comme le disait très bien Michel, il y a une partie en contrôle continu, savoir si l'élève a bien travaillé toute l'année, et un examen qui est peut-être plus court. Et moi, je trouve que là, c'est un bon compromis, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, beaucoup de professeurs disent aussi que la réforme est intéressante, et ça les valorise.
Le problème, c'est non seulement... Il y a toute une tranche donc, qui dit, et toute une frange qui dit, ça nous dévalorise puisqu'il n'y aura pas les sujets, etc. Et en réalité... C'est pas vrai. Moi, je trouve que ça valorise plutôt le rôle des professeurs dans le quotidien, dans le rapport avec leurs élèves, dans les progrès qu'ils peuvent faire aux élèves. Voilà.
Mais, non, mais c'est dans les options, il y a la langue des signes, il y a des tas de choses comme ça. Et, bon, et pour les professeurs qui étaient jusque-là, qui parlent le corse. Ou alors des langues, le basque, le créole, les échecs. Il y avait une trentaine d'options. Alors, c'est vrai, peut-être pour ces professeurs-là, ça c'est vrai, c'est une atteinte à leur...
Il manque une option, leur, d'ailleurs. Dans toutes les options, il manque une option.
Oui.
Le football féminin.
Ah bah tiens, j'en profite, j'allais le dire à la fin de l'émission, mais bon, puisque nous étions à côté du Parc des Princes avec Michel Cotta et Charles Villeneuve, je ne sais pas si vous avez vu, on a perdu, on est éliminé, voilà, on est triste.
Mais vous étiez aussi qu'on avait, c'était bien gardé de faire des pronostics, parce que vous m'avez demandé,
parce qu'on
savait quand même la supériorité de l'équipe américaine. Quand
évidemment, deux éléments, d'abord Gianni Infantino, du côté de la FIFA, on salue l'organisation de cette Coupe du Monde féminine de football, on a au moins gagné ça côté français, et puis Stéphanie Frappard, je vous l'apprends peut-être, hein, on l'a appris il y a quelques minutes, Stéphanie Frappard, arbitre française, arbitrera la finale dimanche. C'est déjà une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
Stéphanie Frappard, Charles, vous voyez, celle qui va arriver en Ligue 1.
Il y aura une Française à la finale, quoi.
Voilà, il y aura une Française à la finale, au bout de la finale de cette Coupe du Monde.
Mais j'espère qu'elle refusera un pénalty aux Américaines.
Comme ça, oui. On verra. 19h46. Vous êtes sur Europe 1. On a parlé évidemment des nominations au poste clé pour l'Union Européenne. On a parlé du baccalauréat rocambolesque. Hein. Je fais attention avec les mots. Rocambolesque, je pense qu'on ne prend pas parti en le disant. On va parler de la course à la mairie de Paris. Ça y est, je crois qu'elle est lancée. On peut clairement en parler avec les grandes voix Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve. A tout de suite.
Vous écoutez Mathieu Bellière sur Europe 1 et les grandes voix Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve.
On va parler de la course à la mairie de Paris, clairement lancée. On en a déjà parlé plusieurs fois sur Europe 1 le soir. Par quel bord voulez-vous le prendre ? Le fait le plus récent, à savoir Édouard Philippe, ou alors les ralliements que l'on observe aussi, Mounir Majoubi qui se désiste pour Cédric Villani. Bon, ça se passe plus pour le moment du côté de La République En Marche, mais ça y est, c'est parti, Catherine Ney.
Mais d'abord, il y a une volonté commune de En Marche, des Républicains et de toute la droite, c'est de battre Hidalgo. Bon, quel sera le meilleur candidat ? Bon, Benjamin Griveaux, c'est ça en grande, peut-être, désir intime, et c'est son grand projet, c'est... Il a voulu être candidat. Moi, je pense qu'aujourd'hui...
Villani aussi, tu sais, Catherine.
Oui, non, je ne savais pas si c'était un projet depuis longtemps, mais il semble que sa candidature... ça est plutôt mal parti. Enfin, je pense que c'est le président aussi qui donnera son aval ou pas. Mais quand je l'ai entendu dire qu'il soutiendrait le candidat qui serait choisi, moi, je me suis dit que peut-être il a passé son tour. Bon, il y a Cédric Villani qui a fait quelques, qui a maintenant coupé ses cheveux, qui enlève les araignées sur ses.
Il a toujours son grand col.
Qui a toujours son grand col, hein.
Il est beaucoup plus discret là maintenant.
Il est plus discret. Oui. Il n'a plus ses araignées qui, moi, me faisaient fuir.
Il est bleu nuit sans araignées, évidemment, voilà, débarrassé de la toile.
Et qui s'exprime très bien, etc. Qui est intelligent, qui est une solution, qui est un homme agréable.
J'avais même pas remarqué qu'il avait enlevé, il avait toujours une broche en
araignée. Une araignée, oui.
Il l'a enlevé. Une araignée sur le pectoral gauche.
Ça ne faisait pas électoral.
Puis les femmes ont horreur des araignées.
Et sa cravate foulard était du même ton que sa... Que sa veste.
Oui, voilà. Donc ça y est.
D'habitude, elle contraste.
Il est rangé. Vous
comme
dites qu'il est rangé.
Oui, c'est ça, il s'est rangé.
Ah, il rentre dans le moule, en fait.
Voilà.
C'est ce que vous voulez dire. Cédric Villani. Voilà. Donc, candidat atypique, Cédric Villani, quand
atypique.
Même.
Atypique. Oui, atypique.
Pas à peu près des scientifiques, de grands scientifiques devenus politiques, il y en a eu. Mais Cédric Villani, c'est une sacrée personnalité, quand même.
C'est une sacrée personnalité.
Mais sa prestation
Médaille
chez Bourdin était
pas,
très bonne, était excellente, elle était très politique.
Oui. On lui a aussi rappelé, quand même, qu'il avait été au dernier scrutin. Tout en haut de la liste des soutiens d'Anne Hidalgo. Cédric Villani, il faudra qu'il s'en explique à un moment. Mais bon, pour vous, simplement une question sur les nominations à tête de la République, dans les candidatures pour La République En Marche. Je vais avoir l'air un peu naïf en posant cette question. C'est le président qui décide ?
Oui.
C'est sûr ?
Oui.
Les histoires de commission, on n'y croit pas du tout ?
Ça a toujours été le cas pour la majorité, en tout cas. Parce qu'on se rappelle, évidemment...
Mais je crois que c'est le Nouveau Monde...
Il y a un précédent célèbre où, pendant que Giscard d'Estaing nommait son candidat, qui parlait depuis l'Élysée, Jacques Chirac se lançait dans la compétition.
C'est Michel Dornano qui avait eu le tort d'annoncer sa candidature sur les marches de l'Élysée.
Il y a un précédent célèbre. Oui. En gros, c'est les présidents qui choisissent le candidat de Paris, en plus.
D'ailleurs, quand ça a flotté un peu pour la liste européenne, dirigé par Nathalie Loiseau, qui est rentrée dans la danse et qui est devenue le vrai chef de file de la liste européenne de la République En Marche, c'est le président de la République.
Quand il a senti la faiblesse ben de sa candidate.
Oui. Voilà. Bon, on verra ce que dira cette commission. Hein je croyais que c'était le Nouveau Monde, que c'était fini. Bon, bah,
c'est le Nouveau Monde.
Il ressemble beaucoup à l'ancien, quand même.
Oui, total.
Oui, bien sûr. Comme la négociation. C'est comme la compromission de Bruxelles.
Oui, c'est ça.
Exactement.
Édouard Philippe, le maire dont Paris a besoin, dit Antoine Rufnacht, je vais y arriver ce soir. Est-ce qu'Édouard Philippe. Parce que ça a été évoqué un temps, puis
de toute façon, c'est une grande idée des Républicains. Par exemple, Claude Goasguen est allé plusieurs fois voir Édouard Philippe pour lui dire « Vous devez être candidat ».
C'est le député du
16e. C'est le député du 16e. Parce que tous ces élus de l'Ouest parisien, ils ont vu les résultats aux européennes, où vraiment En Marche est très, très, très devant la liste de François-Xavier Bellamy. Et ils se sont dit « Le seul qui puisse emporter la mairie de Paris aujourd'hui, c'est un candidat, les En Marche. Donc, et le meilleur, Pierre Charron, pour eux.
C'est la seule chance, d'avoir un maire de droite à Paris, c'est d'envoyer le Premier ministre à la République En Marche.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas, parce que la grande question, c'est effectivement, c'est donc cet appel est parti de Antoine Rufnacht, dont on sait qu'après, c'est un maire du Havre qui a nommé Édouard Philippe, mais on sait qu'après, les relations entre les deux n'étaient pas très bonnes. L'interrogation, c'est est-ce que Édouard Philippe aide un peu ces gens, ou est-ce que ces gens ont fait cet appel, est-ce que Rufnacht a fait cet appel pour mettre un peu de désordre dans la majorité?
Moi je suis sûr
que c'est la deuxième hypothèse.
Je crois qu'il veut remettre surtout de l'ordre au Havre, parce que
il y a aussi la volonté de l'éloigner du Havre.
Oui, voilà, parce que ce qui l'embête, Antoine Rufnacht, c'est que Édouard Philippe aime la ville du Havre, ses enfants aiment beaucoup le Havre et sa mère vit au Havre.
Moi, j'adore le Havre aussi, je le précise.
Il y vient souvent.
Il y reçoit même le premier ministre russe.
Donc, les Havrais le voient dans les rues, et ce qui fait que l'actuel maire, qui est quelqu'un qui est très bien, qui est un professeur, mais qui, est dans le style classique, passe un peu inaperçu. Et donc, Rufnacht est persuadé que, évidemment, le Premier ministre ne viendra pas se présenter au Havre, il dit qu'il vaut mieux clarifier la situation, l'éloigner, pour que le maire soit sûr de lui-même.
Nos deux interprétations se complètent, parce que je suis presque certaine qu'il y a eu un peu d'humour dans cet appel qui est ça va quand même interroger l'Élysée, que veut faire exactement Édouard Philippe. Si ça pouvait mettre un tout petit peu de discorde entre les deux, ce serait drôle. Voilà,
mais
ça, c'est
quand même
important.
Enfin, tu as raison de dire, Mathieu Béliard, que c'est un truc à 18 bandes.
Oui.
C'est de la politique politicienne à mort.
Mais si on reste sur les faits... Paris qui veut pas, pour pas qu'il aille...
Elle a plusieurs singularités, de toute façon, cette tribune. C'est vrai, il y a tout ça, mais aussi le fait que c'est pas un hasard si elle sort cette semaine, puisque la semaine prochaine, mercredi, il y a la commission exécutive de désignation qui va décider qui serait le candidat idéal des 5 candidats de La République En Marche.
Mais il n'est pas sûr que la décision soit prise dès la semaine prochaine, parce qu'en réalité, ils ont 3 mois devant eux. Bon,
oui.
Mais je crois... Alors,
non, mais
Antoine
je veux
Rufnacht...
dire par là, ce n'est pas ce que je veux dire.
Bon.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un hasard si elle sort avant mercredi.
Mais
maintenant, qui sera désigné?
Le problème, c'est Édouard Philippe a toujours dit, y compris à Claude Goasguen, ce sera le président qui choisira ce que je fais.
Ben oui.
Moi, ça me paraît très difficile. À partir du moment où le président vient de lui donner l'étape numéro 2 du quinquennat, qui s'en sépare maintenant, ça me paraîtrait vraiment illogique. Et je ne suis pas sûr que Édouard Philippe ne soit pas de cet avis.
Voilà, Édouard Philippe avait déjeuné au printemps avec Antoine Rufnacht. Il lui en avait parlé et Édouard Philippe lui avait éludé et n'avait pas voulu répondre.
Oui, Michel Grandevoix, allez, un dernier mot, Charles.
Oui, non, mais maintenant, il veut à tout prix conquérir à peu près 4 à 5 grandes villes, dont Marseille, évidemment, Lille, beaucoup plus difficile, Lyon, là aussi, problème épineux, et Paris. Or, s'il veut vraiment, s'il veut le renvoyer ou arrêter, si tu veux, le chemin long emprunté par Anne Hidalgo, il faut bien envoyer un cadeau.
Merci beaucoup, les Grandevoix. On est au bout du temps, et en fait, je vous en prends un tout petit peu. parce que c'est la dernière de votre grand journal du soir sous cette forme, cette saison, parce que l'été arrive et que, pour ma part, j'avais juste un petit mot à dire. Les gens qui passent à l'antenne tous les soirs, je les remercie sans arrêt. Donc je voudrais quand même juste remercier ceux qu'on appelle un peu simplement les petites mains, mais qui ont de gros bras dans cette belle équipe. Benjamin Muller se moquait un petit peu tout à l'heure, en projet un peu loufoque, parfois, peut-être, il fallait le mettre en place, mais on a réussi un grand journal du soir, j'en suis ravi, qui changeait un petit peu la manière de traiter l'info et de parler avec les auditeurs. Et c'est grâce à vous, Claudia, Marion, Dora, Stéphanie, Paul, Camille. Camille, bien sûr, qui reçoit tous les appels au 3921, Jean, qui réalise cette émission tous les soirs, Christophe, qui le remplace aujourd'hui. Évidemment, une voix que beaucoup d'auditeurs connaissent sur Europe 1, mais qui est désormais en régie, c'est Marc Messier, rédacteur en chef de cette émission. Je voulais et vraiment les remercier parce que ça fait 10 mois seulement que je suis à Europe 1 et que j'ai été accueilli, mais vraiment comme dans un rêve, par la rédaction d'Europe 1. Je le dis tout le temps en rigolant, je suis apprécié par les chefs et par les petits salaires ici, et c'est agréable.
Est-ce que
ça va durer? Ça, c'est encore autre chose. Alors, je profite de ce moment. Je remercie Nikos pour son mot de ce matin. Je remercie aussi Laurent Guimier, parce que c'est tout bête, mais c'est une personne qui a vu quelque chose en moi que je ne connaissais pas. Et c'est grâce à lui aussi que je suis là. Et puis, on a plein de belles aventures, n'est-ce pas, Ambline?
Oui.
Plein de belles aventures à venir. Merci Catherine, merci Michel Cotta, merci Charles Villeneuve, merci les grandes voix de m'avoir épaulé pendant toute cette saison. Et un grand, grand merci aux auditeurs, en premier et surtout aux auditeurs. Merci de votre fidélité, on se retrouve évidemment, pour moi dès lundi, mais surtout l'année prochaine évidemment. Et bonsoir Karima Charny.
Bonsoir Mathieu, bonsoir.
Ça va Karima?
Ça va très bien et vous?
Bon, musique.
Musique dans un instant, effectivement.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Alors aujourd'hui c'est particulier, je vais jouer avec vos souvenirs, avec la nostalgie, puisque dans un instant, on va recevoir Emmanuel Minel et Fanny Ginès, les créateurs du podcast Radio Cassette, qui est juste là, voilà, je l'ai dans ma main, je ne sais pas si vous le voyez. On va jouer avec
c'est
la
vintage,
nostalgie,
hein.
Exactement, c'est vintage, on part dans les années 90. Bien entendu, on est vendredi, donc aujourd'hui, vendredi, c'est les nouveautés musique qui sortent. Donc on va parler musique, on va se détendre jusqu'à 22h en direct sur Europe 1.
Belle soirée en musique sur Europe 1 avec Karima Charny. Excellent week-end, Ambline.
Très bon week-end,
et
Mathieu Béliard.
Très belles vacances.
Et moi, je me permets de vous remercier.
À très
vite. Merci Mathieu, à très bientôt. Et à tout de suite avec Chanel Petit pour l'information sur Europe 1.
Europe 1.